Chapitre 6. Des filaments. Elaine courut comme les autres, bien entendu. Relevant l'ourlet de sa jupe, elle prit même rapidement la tête du groupe sur le sentier accidenté. Bien qu'elle semblât n'avoir aucune notion de l'art de courir en portant une jupe, d'équitation ou pas, Avienda la suivit de près. Même épuisée, sans ce handicap vestimentaire, elle serait à coup sûr passée en tête. Aucune régente n'aurait commis l'indélicatesse de devancer Reneil, qui ne pouvait pas aller très vite avec la coupe entre les bras. N'ayant pas le moindre scrupule, Ninévé écartait la concurrence à coups de coude, se fichant comme d'une guigne de bousculer des régentes, des femmes de la famille ou des Aes Sedai. Alors qu'elle dévalait la pente, manquant sans cesse s'étaler, Elaine eut envie de rire, malgré la gravité de la situation. Et le danger. Depuis ses 12 ans, Lini et sa mère l'empêchaient de courir et de monter aux arbres. Mais ce n'était pourtant pas le pur plaisir de se dépenser qui motivait son hilarité. Elle s'était comportée comme une reine, et le résultat se révélait des plus satisfaisants. Alors qu'elle avait pris le commandement pour guider des gens loin du danger, il l'avait suivie. Sa vie entière avait été une préparation à ce jour. Du coup, elle riait de joie. La fierté dont elle était emplie lui semblant par moments pouvoir l'envelopper d'une aura scintillante, comme le Saïdar. Une fois négocié le dernier lacet, la fille héritière s'attaqua à l'ultime ligne droite, le long d'une des granges. Hélas, son pied glissa sur une pierre et elle partit en vol plané. Faisant un salto avant bien involontaire, puis se recevant ô combien durement sur le sol au pied du sentier, devant Birgit, bien entendu. Sonnée par le choc, elle perdit momentanément l'aptitude à réfléchir. Et quand elle la retrouva, très peu de sa satisfaction d'origine était encore présente. Tu parles de la dignité d'une reine. Tout en écartant ses cheveux de ses yeux, elle essaya de reprendre son souffle, prête à entendre les commentaires assassins de sa championne. Quand elle avait une chance de jouer les grandes sœurs pétries de sagesse, Birgit ne la laissait jamais passer. Mais là, ô miracle, l'héroïne l'aida à se relever avant même qu'Avienda arrive à son tour et s'autorise l'ombre d'un sourire. Chez sa championne, Elaine capta seulement une intense concentration. Le genre de tension qu'aurait pu éprouver une flèche encochée dans un arc, en quelque sorte.
« On file ou on se bat ?»
demanda Birgit.
« À Falm, j'ai déjà vu ces Seanchani volants. Et pour être franche, je suggère que nous filions. Mon arc n'a rien de très légendaire aujourd'hui. »
Avienda parut intriguée par cette dernière phrase, et Elaine soupira d'agacement. Si elle voulait vraiment cacher sa véritable identité, Birgit devrait apprendre à tenir sa langue.
« Bien sûr qu'on file !»
halta Ninévé en déboulant à son tour.
« Se battre ou fuir ? Une question idiote ! Tu crois que nous sommes complètement... Non, par la lumière, mais que fiche-t-elle ? Alise ! Alise, où es-tu ? Alise ! »
Elaine s'avisa que la ferme était en ébullition, comme lors de l'arrivée en fanfare de Caréane. Et peut-être plus. Selon Alise, 147 femmes de la famille résidaient ici en ce moment. En comptant 54 guérisseuses à la ceinture rouge arrivées quelques jours auparavant, et un certain nombre d'autres qui étaient de passage dans la cité. Pour l'heure, il semblait que toutes ces femmes avaient décidé de courir comme des oies affolées, et que leur exemple avait inspiré les servantes venues du palais Tarasin. Les canards et les volailles couraient aussi en criant d'abondance, ajoutant à la confusion. Elaine vit même Jaem, le champion grisonnant de Vanden, foncer tête baissée avec un sac de toile de jute sur les bras. Alise se matérialisa soudain près de Ninévé, digne et calme, malgré la transpiration qui ruisselait sur son front. Pas une seule mèche de cheveux en désordre, elle n'arborait pas non plus l'ombre d'un faux pli sur sa robe, comme si elle était au milieu d'une promenade.
« Inutile de couiner, »
dit-elle, les poings plaqués sur les hanches.
« Birgit m'a dit ce que sont ces gros oiseaux, et en vous voyant dévaler le versant de colline comme si le ténébreux en personne vous pistait, je me suis dit que nous allions devoir filer très vite. » Donc, j'ai ordonné à chaque femme d'emporter une robe de rechange, 3 jeux de sous-vêtements et de bas, du savon, un nécessaire de couture et tout son argent. Rien de plus. Les 10 qui finiront en dernier se chargeront de la vaisselle pendant tout le voyage, où qu'ils nous conduisent. Un moyen de stimuler ces dames. J'ai aussi chargé les domestiques et vos champions, des êtres agréables et étonnamment sensés pour des hommes, de collecter toute la nourriture disponible. Devenir un champion change-t-il tant que ça un mâle ?
Ninévé ravala tant bien que mal les ordres qu'elle était sur le point de donner. À quoi bon, puisque Alise l'avait devancée.
« Très bien, »
marmonna l'ancienne sage-dame.
« Oui, oui. »
Soudain,
Elle reprit du poil de la bête. Les femmes qui n'appartiennent pas à la famille. Oui, il faut du calme,
fit Alice, impériale.
Elles sont presque toutes déjà parties. Surtout celles qui ont un époux et une famille. Celles-là, je n'aurais pas pu les retenir, même si je l'avais voulu. Mais une bonne trentaine, croyant que ces oiseaux sont des créatures de ténèbres, n'ont pas voulu s'éloigner des Aes Sedai.
Un soupir indiqua ce qu'elle pensait de cette démarche.
« Bon, il ne vous reste plus qu'à vous remettre de vos efforts. Buvez un peu d'eau froide, mais pas trop vite, et passez-vous-en sur le visage. Moi, je dois surveiller les préparatifs. »
Elle regarda autour d'elle et secoua la tête.
« Certaines de ces femmes s'évanouiraient si les trolloques déboulaient de la colline. Et la plupart des nobles ne se sont jamais habitués à nos règles de vie. Il va falloir que je rafraîchisse quelques mémoires. »
Sur ces mots, Alice s'en retourna dans la cohue, laissant Ninevé stupéfaite.
« Eh bien !»
lui rappela Elaine en époustant sa robe.
« Tu as parlé d'elle comme d'une femme très compétente. Je n'ai jamais dit ça. Enfin, pas le trait, en tout cas. Et où est donc passé mon chapeau? Elle croit tout savoir, hein? Eh bien, je parie qu'elle ignore au moins ça. »
Ninevé s'éloigna dans la direction opposée à celle qu'avait prise Alice. Elaine la regarda un moment, ébahie. Son chapeau? Elle-même, elle aurait bien voulu savoir où était le sien. Un très joli modèle, mais quand même. Avoir participé à un cercle, de plus en utilisant un angréal, avait peut-être provisoirement affecté les facultés mentales de Ninevé. Pour être honnête, la fille héritière se sentait un peu... chose. Comme si elle pouvait encore glaner des fragments de Saïdar autour d'elle. Mais jusqu'à nouvel ordre, Ninevé était le cadet de ses soucis. L'urgence, c'était que tout le monde soit prêt à partir avant l'arrivée des Séanchaniens. D'après ce qu'elle avait vu à Falm, parler de centaines de Daman n'était pas exagéré. Et si on se fiait au peu qu'Egwen avait consenti à dire, sur sa captivité, la majorité de ces femmes seraient ravies de mettre un collier autour du cou de pauvres innocentes. Parmi les expériences qui l'avaient marquée, Egwen citait le jour où elle avait vu des Daman Séanchaniennes rire et jouer avec leurs souldames, comme des chiots bien dressés, heureux d'être avec leur affectueux propriétaire. Et une partie des femmes enrôlées de force à Falm s'était également très vite comportée ainsi. Ces histoires glaçaient les sangs d'Elaine. Plutôt mourir que d'être tenue en laisse. Quant au trésor qu'elle avait découvert, elle aurait encore préféré les laisser aux rejetés qu'aux Séanchaniens. Elle courut jusqu'à la citerne. Avienda la suivant, haletant autant qu'elle. Mais Alice semblait avoir pensé à tout, car l'été en Gréal était déjà sur le dos des chevaux de bas, dans une partie des paniers que la fille héritière avait vidée avec l'aide d'Avienda. Les paniers surnuméraires étaient remplis de sacs de farine, de sel, de haricots et de lentilles. Bien entendu, ceux que les deux jeunes femmes n'avaient pas encore triés contenaient toujours un mélange de merveilles et de détritus. Mais ce serait pour plus tard. Sur un ordre d'Alice, à l'évidence, des palefreniers soignaient les bêtes de bas, au lieu de courir dans tous les sens les bras chargés. Birgit elle-même obéissait à Alice, sans autre signe de réticence qu'un petit sourire mélancolique. Elaine souleva les bâches de toile pour examiner les terrains gréales le plus précisément possible, sans avoir à les décharger. Tout était là, dans deux paniers presque pleins. Un peu de désordre, à première vue, mais pas de casse. Rien d'étonnant, puisque quasiment rien, à part le pouvoir, ne pouvait briser un terrain gréal. Mais bon. Avienda s'assit en tailleur à même le sol et entreprit de s'éponger le front avec un grand mouchoir pas du tout assorti à sa jolie tenue d'équitation en soie. Même elle, la fatigue la rattrapait.
« Pourquoi grommelles-tu ainsi, Elaine ? On dirait Ninevé. Alice nous a épargné la corvée de charger tous ces objets nous-mêmes. »
N'ayant pas eu conscience qu'elle parlait à voix haute, Elaine rosit un peu.
« Je ne veux pas qu'une personne ignorant ce qu'elle fait touche à ces artefacts. Voilà tout. »
Certains terrains gréal pouvaient s'activer entre les mains de personnes incapables de canaliser, si elles faisaient ce qu'il ne fallait pas. Mais en vérité, Elaine refusait que quiconque touche à ses trouvailles. Ses trouvailles. Le hall n'allait pas les confier à une autre sœur parce qu'elle était plus âgée et plus expérimentée, n'est-ce pas? Ou les cacher parce que étudier ces artefacts était trop dangereux. Avec tant de modèles à analyser, elle finirait peut-être par savoir fabriquer un terrain gréal qui fonctionne en permanence. Sur ce plan, elle avait trop connu d'échecs et de demi-succès.
« Oui, pour y toucher, il faut savoir ce qu'on fait. »
murmura Elaine en remettant la toile en place. Dans la ferme, l'ordre émergea du chaos plus vite qu'on aurait pu le croire, mais plus lentement que l'avait espéré la fille héritière. Bien entendu, dut-elle reconnaître à contre-cœur, pour la satisfaire, il aurait fallu que la transformation soit instantanée. Incapable de cesser de scruter le ciel, elle envoya Carréan au sommet de la colline, afin de voir ce qui se passait à Eboudar.
Marmonnant entre ses dents avant de s'incliner, la massive sœur verte alla même jusqu'à lorgner les membres de la famille qui passaient, comme si elle voulait proposer qu'une de ses femmes se charge de la mission. Mais Elaine voulait quelqu'un qui ne s'évanouirait pas en voyant approcher des créatures des ténèbres. Et Karéane était tout en bas de la hiérarchie des sœurs présentes. Adéléas et Vanden arrivèrent, flanquant Hispan, toujours sous bouclier et de nouveau cagoulé. La prisonnière marchait normalement, et rien n'indiquait qu'il lui soit arrivé quoi que ce soit. Alors qu'elle n'avait pas les mains entravées, elle n'essaya pas une seule fois de relever sa cagoule. Et dès qu'on l'eut hissée en selle, elle tendit docilement les poignets pour qu'on la lui attache. Si elle était dans de si bonnes dispositions, ça voulait peut-être dire que Vanden et Adéléas lui avaient arraché des informations. Comment ? C'était le problème des deux sœurs, pas celui d'Elaine. Bien entendu, dans toute cette agitation, il y eut des bavures, en dépit de la gravité de la menace imminente et parfaitement inévitable. L'incident du chapeau de Ninevée, sans être très grave, compta au nombre des accrocs. Ayant retrouvé le couvre-chef, Alice avait rendu à Ninevée, en lui conseillant d'abriter sa peau du soleil si elle voulait conserver son joli teint de pêche. Bouche bée, l'ancienne sage-dame avait regardé la femme grisonnante s'éloigner pour aller résoudre un petit problème de plus. Puis elle avait ostensiblement glissé le chapeau sous une sangle de ses sacoches de sel. Depuis le début, Ninevée s'était attachée à aplanir les difficultés. Mais Alice la devançait pratiquement à tous les coups, et avec elle, les difficultés s'aplanissaient pratiquement toutes seules. À plusieurs nobles dames qui avaient demandé de l'aide pour faire leur bagage, l'intraitable Alice avait répondu que ses ordres n'étaient pas des paroles en l'air. La liste des choses à emporter était courte. Chaque femme devait s'en charger seule. Et toutes celles qui n'obtempéraient pas partiraient avec ce qu'elles avaient sur le dos. Évidemment, les récalcitrantes se hâtèrent d'obéir. Plusieurs femmes, et pas seulement des nobles, annoncèrent qu'elles ne viendraient pas dès qu'elles surent que les autres partiraient pour le royaume d'Andorre. Sans hésiter un instant, Alice les expulsa de la ferme, sans monture, et avec la consigne de courir aussi longtemps qu'elle le pourrait. Alors que le moindre cheval comptait pour Elaine et son groupe, les dissidentes devraient être le plus loin possible de la ferme quand les Séanchaniens y arriveraient. Car s'ils faisaient des prisonnières, elles seraient au minimum mises à la question, si on ne les exécutait pas avant. Comme c'était prévisible, Ninevée eut une bruyante prise de bec avec Reneil, au sujet de la coupe et de la tortue qu'avait utilisée Talahan, et que la chef des Atahaniré s'était appropriée. Alors que les deux belligérantes en étaient déjà à agiter violemment les bras, Alice intervint avec son efficacité coutumière. En un éclair, la coupe des vents fut de nouveau sous la garde de Saraïta, la tortue étant confiée à Merilil. Suite à cette médiation, l'indomptable Alice, sous le regard ravi d'Elaine, brandit un index sous le nez de la régente des vents de la maîtresse des navires des Atahaniré et lui tint au sujet du vol un serment qui la laissa sidérée et tremblante d'indignation. Repartant les mains vides, Ninevée s'éloigna en marmonnant entre ses dents, poignante image de la désolation. Tout bien pesé, les préparatifs ne durèrent pas si longtemps que ça. Sous le regard vigilant des tricoteuses, les femmes de la famille se réunirent dans la cour, baluchon sur l'épaule. Ses propos n'étant jamais en l'air, Alice nota les noms des 10 dernières à se présenter. Comme de juste, 8 sur 10 étaient des nobles portant une tenue de soie très proche de celle d'Elaine. Des nobles, pas des membres de la famille. Connaissant désormais Alice, la fille héritière paria que ses retardataires feraient bel et bien la vaisselle, que ça leur plaise ou non. Les Atahaniré s'alignèrent aussi, leur monture tenue par la bride. Bizarrement, aucune ne parlait, à part Reneil, encline à marmonner des imprécations dès qu'elle apercevait Alice. Tandis qu'on faisait signe à Karéane de descendre de sa colline, les champions amenèrent leurs chevaux aux sœurs. Alors que tout le monde gardait un œil levé vers le ciel, l'aura du Saïdar enveloppait toutes les Aes Sedai les plus âgées et une majorité de régentes, sans oublier quelques membres de la famille. Guidant sa jument jusqu'à la tête de la colonne, au niveau de la citerne, Ninevée caressa l'angréal toujours passé à son poignet, comme si c'était elle qui allait ouvrir le portail. Une idée ridicule s'il en était. Primo, parce que l'ancienne sage-dame, même si elle s'était débarbouillée et bizarrement avait remis son chapeau, continuait à vaciller sur ses jambes dès qu'elle relâchait un tant soit peu sa concentration. Le visage de Pierre, comme toujours, l'âne ne la quittait pas d'un pouce, prêt à la rattraper si elle s'écroulait. Même avec son bracelet, elle ne semblait pas en état de tisser un portail. Secondo, et plus important encore, depuis leur arrivée, elle n'avait pas cessé d'aller et venir dans la ferme. Elaine, au contraire, avait passé un long moment à maintenir le Saïdar à l'endroit même où elle se trouvait. Donc, elle connaissait parfaitement les lieux. Du coup, quand elle s'unit à la source, Ninevé se rembrunit. Mais elle eut assez de sens commun pour ne rien dire. Dès le début, Elaine regretta de ne pas avoir demandé à Avienda de lui prêter la figurine de la femme enveloppée dans ses cheveux. Fatiguée, elle aussi, tout le Saïdar qu'elle pouvait encore puiser risquait de ne pas suffire pour que le tissage fonctionne. Au début, les flux semblèrent vouloir lui échapper, puis ils se mirent en place si brusquement qu'elle en sursauta. Canaliser le pouvoir quand on était épuisé n'avait rien d'agréable, mais là, ce fut une torture. Le trait de lumière verticale finit quand même par apparaître, tournant sur lui-même avant de former une ouverture pas plus large que celle d'Avienda à l'allée. Mais ça irait, puisqu'un cheval pourrait passer. Jusque-là, Elaine avait douté de sa réussite. Les femmes de la famille crièrent de surprise en voyant l'image d'une prairie apparaître devant elles au milieu de rien.
« Tu aurais dû me laisser faire !»
souffla Ninevé, mais avec une pointe de fiel.
« Tu as failli tout emmêler !»
Avienda eut pour l'ancienne sage-dame un regard si noir qu'elle a une failli lui retenir le bras. Depuis qu'elles étaient presque sœurs, Laïel se sentait de plus en plus obligée de défendre l'honneur de la fille héritière. Si elle devenait un jour première sœur, il faudrait peut-être la garder loin de Ninevé et de Birgit.
« Je l'ai fait, Ninevé. C'est tout ce qui compte. »
L'ancienne sage-dame eut un regard indigné et marmonna quelque chose au sujet de la susceptibilité de certaines personnes. Comme si c'était Elaine qui s'était dressée sur ses ergots. Tenant son cheval par la bride, son arc dans l'autre main, Birgit traversa la première, avec un étrange sourire à l'intention de l'âne. Sans doute parce qu'elle se réjouissait de l'avoir devancée. L'éternelle rivalité entre les champions. À part ça, Elaine capta chez sa championne un peu de méfiance, mais vraiment très peu. Quand elle était enfant, Gareth Bryne lui avait donné ses premières leçons d'équitation dans cette prairie, qu'elle connaissait comme sa poche. À une lieue de ces collines très peu boisées, se dressait le manoir d'un des nombreux domaines de sa mère. Non, d'un de ses nombreux domaines. Il allait falloir qu'elle s'habitue à ça. Les sept familles qui s'occupaient de la demeure et des terres étaient les uniques habitants dans cette région, à une demi-journée de cheval dans toutes les directions. Elaine avait choisi cette destination parce qu'elle était à 2 semaines de voyage de Kemlin. En arrivant dans un coin aussi perdu, elle aurait une bonne chance d'entrer dans la capitale avant que quiconque sache qu'elle était en Andorre. Une précaution qui pouvait s'avérer judicieuse. Plusieurs fois, dans l'histoire du royaume, des prétendantes à la couronne de rose avaient été gardées comme invitées par une maison rivale, jusqu'à ce qu'elle renonce à réclamer le trône en général. Morgaz elle-même avait recouru à cette méthode avec 2 prétendantes, avant de s'asseoir sur le trône. Si tout se passait bien, Elaine espérait avoir bien établi sa position avant l'arrivée des Gwen et des autres. L'âne traversa juste après Birgit, Mandarbe tenu par la bride, et Ninevé se précipita sur les talons de son mari, avant de ralentir le pas et, d'un regard noir, de défier Elaine d'oser un commentaire. Jouant nerveusement avec ses rênes, elle s'efforça de ne pas regarder en direction du portail. Après un instant, Elaine comprit qu'elle comptait les secondes.
« Ninevé, nous n'avons pas vraiment le temps de...
« Avancez !»
cria Alice en claquant des mains.
« Je ne veux pas de bousculade, mais pas de traînarde non plus. En route !»
Ninevé tourna la tête, l'air hésitant. Bizarrement, elle porta une main à son grand chapeau, en arrachant quelques plumes bleues, puis marmonna.
« Espèce de vil pot de bique !»
La suite échappa à Elaine, puisque son ami venait de traverser le portail. Mais qu'elle toupait quand même. Oser faire la morale aux gens sur leur vocabulaire. Et la suite devait être gratinée, si on en jugeait par les premières aménités. Alice continua à stimuler ses troupes, mais après sa première intervention, ce n'était pas vraiment indispensable. Impressionnés, même les Hatta admirés pressaient le pas, tout en jetant des coups d'œil inquiets au ciel par-dessus leur épaule. Tout en grommelant aussi au sujet d'Alice, des injures imagées qu'Elaine nota dans un coin de sa tête, Renail elle-même se mit à trottiner. Charognard bouffeur de poissons? Joli, mais un peu étrange, pour un peuple qui devait se nourrir essentiellement de produits de la mer. Alice traversa la dernière, à part les champions restants, qui formaient l'arrière-garde. S'arrêtant devant Elaine, elle lui tendit son chapeau à plumes vertes.
« Il faut te protéger du soleil, mon enfant. Un si beau visage ne doit pas être ridé avant l'heure. »
Assise sur le sol, non loin de là, Avienda rit tellement fort qu'elle en tomba à la renverse.
« Je vais lui demander de te trouver un chapeau, »
menaça Elaine.
« Avec beaucoup de plumes et de très gros rubans. »
Sur ces mots, qui douchèrent l'hilarité de Laïel, elle emboîta le pas à Alice. Très large, la vallée longue de près d'une demi-lieue était bordée par des collines plus hautes que celles qui entouraient la ferme. On y trouvait toutes sortes d'arbres qu'Hélène connaissait très bien. Des chênes, des pins, des pruniers, des sapins et des lauréoles. En bref, au sud, à l'est et à l'ouest, une riche source de bois de construction, même s'il n'y aurait peut-être pas d'abattage cette année. Au nord, en direction du manoir, il s'agissait plutôt de bois de chauffe. De petits rochers gris apparaissaient ça et là, au milieu de l'herbe jaunie qui aurait dû avoir disparu depuis longtemps. Le même décor que dans le sud, dû au dérèglement du climat. Cette fois, Nineveh ne se mit pas à sonder les alentours pour repérer l'âne. De toute façon, ici, Birgit et lui ne pouvaient pas être partis bien loin. Assumant son rôle, l'ancienne sage-dame passa entre les chevaux, ordonna aux femmes de monter en selle, harcela inutilement les domestiques qui s'occupaient des chevaux de bas, rappela aux membres de la famille dépourvus de monture que marcher 5 lieues était un jeu d'enfant, et houspilla une mince noble dame, apparemment originaire d'Altara, qui arborait une cicatrice sur la joue et ployait sous le poids de son baluchon. Puisqu'elle avait voulu emporter tant de choses, eh bien, à elle de les porter à présent. Les hâtas admirés massés autour d'elle, Alice leur donnait un cours sur les bases de l'équitation. Miraculeusement, les régentes l'écoutaient. Avisant sa némésis, Nineveh parut soulagée de l'avoir occupée. Jusqu'à ce qu'Alice la gratifie d'un sourire encourageant et lui fasse signe de continuer ce qu'elle avait en cours. Un moment, Nineveh se pétrifia, les yeux rivés sur l'impudente. Puis elle rejoignit Elaine à grands pas, s'immobilisa, saisit son chapeau à deux mains et le remit bien droit sur son crâne.
« Cette fois, je vais la laisser tout faire »,
annonça-t-elle d'un ton raisonnable qui n'augurait rien de bon.
« Nous verrons comment elle s'en sort avec ses hâtas admirés de malheur. Oui, nous verrons. »
Trop raisonnable ce ton, décidément.
« Elaine, pourquoi gardes-tu le portail ouvert ? Disciple !»
Avienda aussi parut étonnée, maintenant que Nineveh faisait remarquer cette bizarrerie. Elaine prit une grande inspiration. Elle avait longuement réfléchi sans trouver d'autre solution. Mais Nineveh allait discutailler, et ce n'était pas le moment. À travers le portail, on voyait la ferme déserte, les volailles elles-mêmes étant allées se cacher, sans doute effrayées par le tohu-bohu. Combien de temps avant que cet endroit grouille de nouveau de monde ? Très peu, sûrement. Examinant son tissage, Elaine constata que seuls certains filaments se distinguaient encore de la masse. Elle voyait tous les flux, bien entendu, mais il n'en formait plus qu'un, à part quelques exceptions.
« Nineveh, conduis tout le monde jusqu'au manoir !»
Le soleil ne tarderait plus trop à se coucher. S'il restait 2 heures de jour, c'était déjà beau.
« Maître Ornwell sera surpris de voir arriver tant de gens si tard. Mais dites-lui que vous êtes les invités de la fille qui pleurait à cause de l'aile cassée d'un petit oiseau rouge. Il se souviendra. Je vous rejoindrai dès que j'en aurai terminé. « Elaine !»
souffla Avienda, sa voix trahissant une inquiétude étonnante chez elle.
« Qu'as-tu donc idée de ?»
commença Avienda. Il n'y avait qu'un moyen de couper court à la polémique. Saisissant avec le pouvoir un des filaments apparents du tissage, Elaine tira dessus. Des étincelles de Saïdar jaillirent, crépitant avant de disparaître. Lorsque Avienda avait détissé son portail, ce phénomène ne semblait pas s'être produit. Mais la fille héritière n'avait vu que la fin de l'opération.
« Partez, Nineveh. Pour finir, j'attendrai que vous soyez loin. Ne me regarde pas comme ça. Il faut que je le fasse. Les Séanchania auront investi la ferme dans quelques heures. Et même s'il tarde jusqu'à demain, qu'arrivera-t-il si une Daman a le don de détecter et d'interpréter les résidus d'un tissage ? Je refuse que les Séanchania apprennent à utiliser les portails. »
Nineveh marmonna au sujet des Séanchania quelques imprécations qu'Elaine aurait donné cher pour entendre clairement, si on se fiait au ton de son ami.
« Et moi, je refuse que tu te carbonises. Allons, lâche ce filament, avant que tout le tissage explose, comme nous l'a expliqué Vanden. Tu risques de nous tuer tous. Pas moyen de revenir en arrière. »
dit Avienda, en posant une main sur le bras de Nineveh.
« Quand on a commencé, il faut aller jusqu'au bout. Tu dois faire ce qu'Elaine te dit. »
L'ancienne sage-dame se rembrunit. « Tu dois faire » n'était pas le genre d'expression qu'elle aimait entendre. En tout cas, quand on s'adressait à elle. Cela dit, elle n'était pas idiote. Après avoir foudroyé du regard tout ce qui tombait sous ses yeux, elle enlaça Elaine et la serra à lui en faire craquer les côtes.
« Sois prudente, c'est compris. Si tu te fais tuer, je jure de t'écorcher vive. »
Même si l'heure était grave, Elaine éclata de rire. La tenant par les épaules, Nineveh l'écarta un peu d'elle.
« Tu sais bien ce que je veux dire, »
marmonna-t-elle.
« Et surtout, ne va pas croire que ce n'est pas sincère. Compris ? Mais sois prudente, s'il te plaît. »
Quand elle se fut un peu ressaisie, Nineveh lâcha Elaine et enfila ses gants bleus d'équitation. On eût dit qu'un peu de rosée perlait à ses paupières, mais c'était sûrement une illusion. Ninevé arrachait des larmes aux autres, mais elle n'en versait pas.
« Alice, »
dit-elle tout bas,
« si tout le monde n'est pas prêt, je... »
Tournant la tête, elle ne finit pas sa phrase. Toutes les cavalières étaient en selle, y compris les Hatta Almiré. Les champions avaient rejoint leur sœur, et Birgit comme l'âne était revenue. L'héroïne regardant Elaine sans cacher son inquiétude. Les domestiques se tenaient en ligne avec les bêtes de bas. Et les membres de la famille, tout à pied à part les tricoteuses, attendaient patiemment l'ordre du départ. Plusieurs chevaux qui auraient pu servir de monture étaient chargés de sacs de vivres et de ballots de vêtements. Les femmes qui avaient dépassé le quota édicté par Alice, exclusivement des nobles extérieurs à la famille, devraient porter cette charge sur le dos. La femme à la cicatrice sur la joue, parce que pliée en deux sous le poids, jetait des regards mauvais à tout le monde, à l'exception d'Alice. Toutes les femmes capables de canaliser fixaient le portail. Et toutes celles qui avaient entendu Vandaine parler des risques d'un détissage lorgnaient le filament libre comme s'il s'était agi d'un aspic. Alice, en personne, amena son cheval à Ninevé et rectifia la position du chapeau à plumes tandis que l'ancienne sage-dame se hissait en selle. Une nouvelle fois vexée à mort, Ninevé orienta sa jument vers le nord et se mit en chemin, l'âne à ses côtés. Un instant, Elaine se demanda pourquoi son amie ne remettait pas Alice à sa place. Si on l'en croyait, depuis son adolescence, elle avait rabattu le caquet de bien des femmes plus âgées qu'elle. De plus, elle était une Aes Sedai à présent. De quoi pouvoir regarder de très haut n'importe quelle femme de la famille.